Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Casalis, qui est administrateur de la Fédération Environnement Durable. Il est accompagné de Brigitte Desabbayes, conseillère municipale. Et en fait, ils viennent évoquer les éoliennes en Eure-et-Loire. Arnaud Casalis, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, je sais que vous êtes donc membre de la Fédération Environnement Durable. Quel est l'objet de cette fédération ?
Cette fédération est une fédération de bénévoles qui groupe 1400 associations qui ont toutes pour objet de défendre les habitants et l'environnement contre ce qu'ils considèrent être les agressions des éoliennes contre leur vie et les paysages et l'environnement au sens large.
Alors, ça fait combien de temps que vous faites partie de cette fédération ?
Je suis membre de cette fédération et membre de son conseil d'administration depuis 10 ans.
Depuis 10 ans. Est-ce que vous avez vu que les éoliennes commençaient à prendre beaucoup d'essor ?
Alors, nous constatons un essor des éoliennes depuis l'année 2005, où il a été décidé de les implanter. Et c'est un mouvement qui progresse de façon constante et fulgurante, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, mais qui ne sont pas toujours très écologiques.
Bon. Alors, vous êtes accompagnée de Brigitte Desabbayes. Brigitte Desabbayes, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Vous-même, vous êtes conseillère municipale dans votre village. Alors, racontez-nous un petit peu votre village.
J'habite depuis maintenant 42 ans un ravissant petit village qui s'appelle Argentvilliers et qui est une petite commune d'environ 400 habitants.
Oui.
J'y suis conseillère municipale depuis 2014, mais je tiens à préciser que je m'exprime aujourd'hui à titre personnel.
Oui.
Et non pas en tant que conseillère municipale. Nous y sommes propriétaires depuis 42 ans d'une résidence secondaire qui devient de plus en plus principale au fil des années. Et donc, nous sommes très attachés au paysage, au terroir, à la ruralité, à cet ensemble que constitue Argentvilliers, qui appartient donc à la communauté de communes du Perche.
Alors, justement, en ce moment, donc, vous semblez rencontrer des problèmes, des difficultés.
Aujourd'hui, la communauté de communes du Perche comprend dans son sein non seulement Argentvilliers, mais de nombreuses autres petites communes regroupées autour de Nogent-le-Rotrou. Et parmi ces communes, une plus récente qui a rejoint la communauté de communes récemment, qui s'appelle les Hôtels Ville-Villon. Et c'est une toute petite commune de 160 habitants.
Mais très importante parce que son église est très importante puisque Radio Grand Ciel,
oui, absolument,
parce que nous avons
absolument
donné de l'argent pour que cette église soit restaurée.
Voilà, il y a une église qui est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
C'est ça, et un maire très dynamique d'ailleurs.
Et un maire très dynamique qui a imaginé d'implanter sur le territoire de la commune un parc éolien. Et ce projet est en cours, semble-t-il, même si on vient seulement de le découvrir, depuis la fin de 2017.
Alors ça, c'est quand même un peu étonnant parce qu'il s'est donné du mal pour l'Église. Et donc, est-ce que ça va empêcher de voir l'Église ?
Alors, je ne sais pas encore comment seront implantées les éoliennes par rapport à l'Église, mais il est très probable que ça sera, oui, une nuisance au point de vue visuel par rapport à cette église qui est classée.
Alors,
et sur laquelle les habitants ont investi, hein, parce que ça s'est fait grâce à une association qui ont véritablement sauvé et restauré cette église.
Donc, oui, exactement.
Donc les Hôtellois, puisqu'on les appelle comme ça,
oui,
ont investi dans ce projet et maintenant, il se voit menacé d'éoliennes d'environ 180 mètres, donc ce qui représente une tour de 40 étages.
Alors, je sais que vous avez vous-même constitué une association. Peut-être pouvez-vous nous en parler.
Alors, nous avons récemment créé une association qui s'appelle l'association Perche Nature et Environnement, qui, au vu de ce projet aux hôtels Villevillon, a décidé de réagir très vite, puisque l'expérience que j'ai dans la Fédération Environnement Durable est que les promoteurs éoliens sont très actifs en amont des projets et mettent la population très souvent, trop souvent, devant le fait accompli, avec les moyens d'ailleurs que leur donne la loi, puisque la loi leur est extrêmement favorable, pour des raisons notamment liées à un lobbying très actif de leur part.
Et savez-vous où seraient implantées ces éoliennes ?
Alors ces éoliennes seraient implantées comme toujours en matière d'éoliennes, la plupart du temps sur les crêtes des collines. Donc c'est l'endroit où on les voit le plus, parce que c'est aussi l'endroit où le vent est le plus favorable.
Oui. Alors pourquoi vous heurtez-vous à ce marché ? Parce qu'il s'agit d'un marché. Ce sont les Allemands, je crois, qui ont commencé à vendre des éoliennes. Est-ce que
alors,
c'est bien cela ?
C'est bien ça. Alors, c'est plus qu'un marché. Pourquoi je dis que c'est plus qu'un marché, ou c'est moins qu'un marché, plus exactement ? Un marché met des acteurs en concurrence pour produire quelque chose, un service ou un bien. Au cas particulier, il s'agit de produire de l'électricité, puisque nous sommes
alors,
dans le cadre d'énergie renouvelable.
Expliquez comment les éoliennes produisent l'électricité.
Alors, les éoliennes sont des moteurs, des aérogénérateurs, qui font à peu près la dimension d'un autocar, qui sont placés en haut d'un mât qui fait 100 mètres ou 120 mètres ou plus, et avec des pales, donc des hélices, en général, enfin, il y a trois hélices, et ces pales font chacune à peu près la largeur des ailes d'un Airbus. Donc on est dans des dimensions avec des diamètres qui sont de l'ordre de 150 mètres de large. Donc ce sont des énormes machines.
Oui.
Et donc l'aérogénérateur, avec la puissance du vent et en fonction du vent, ce qui est le problème majeur des éoliennes, produisent de l'électricité qui est ensuite distribuée dans les réseaux.
Oui, parce que s'il n'y a pas de vent, ça ne peut pas marcher.
Alors s'il n'y a pas de vent, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous ne sommes pas tout à fait dans un marché ouvert et concurrentiel, car la filière éolienne bénéficie d'un régime économique absolument dérogatoire du droit commun, et je dirais même du droit économique habituel qui fait prévaloir la concurrence, en octroyant à la fois des tarifs majorés obligatoires, c'est-à-dire des tarifs réglementés, donc le tarif est fixé d'avance par arrêté ministériel, à des prix qui sont le double de ceux auxquels EDF vend sa propre électricité. Donc la différence, c'est une subvention. Ensuite, le tarif est garanti, ou était garanti jusqu'à présent pendant 15 ans.
Oui.
Et ensuite, le producteur vend son électricité, quelle que soit la période à laquelle il la produit, et quelle que soit la quantité qu'il produit. C'est-à-dire, en fait, c'est un marché. Ce n'est pas un marché. C'est un système absolument contraignant qui donne la priorité absolue à cette filière qui elle-même bénéficie de subventions hors du commun. Et c'est là où le bât blesse énormément. Et ce que les gens ne savent pas toujours suffisamment, c'est qu'en fait, c'est une vraie pompe à finances qui est organisée par les pouvoirs gouvernementaux successifs, et qui enrichit de façon très très significative des gens qui font fortune dans ce domaine. Et je pourrais vous citer quelques exemples.
Non, on n'a pas besoin d'exemples, mais on se rend compte qu'effectivement, ça doit inciter des gens à vendre leur terrain.
Bien évidemment, ce n'est pas toujours de la vente de terrain, souvent, c'est de la location de terrain, le plus souvent. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce système, c'est ce que gagne un promoteur. Il existe un groupe qui s'appelle Énergie et Vérité, qui a fait des études économiques pour remonter les plans d'affaires, ce qu'on appelle les business plans en anglais, les plans d'affaires du système éolien. Donc c'est un groupe de travail qui a été fait avec des experts comptables, un investisseur, un ancien gestionnaire de capital risque, dont des gens avisés. Et ils ont démontré que 1 mégawatt installé pouvait rapporter à un promoteur éolien à peu près 4 millions de profits après impôts. Et ce, en ne mettant pas d'argent à titre personnel. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans une économie normale, puisqu'avec 1 euro, vous pouvez gagner jusqu'à 4 millions d'euros de profits en bénéficiant du plan d'affaires et en se mettant dans ce système tout à fait atypique.
Alors, comment se fait-il que les maires acceptent donc d'avoir des éoliennes dans leur commune.
Tout d'abord, les maires ne sont bien souvent pas informés ou pas bien informés.
Alors j'espère qu'après cette émission, ils seront bien au courant de ce qui peut se passer.
Ce serait bien qu'ils le soient davantage parce qu'effectivement, ils sont souvent pris en traître. Il faut dire les choses comme elles sont. Les maires sont démarchés en fait par des équipes commerciales qui sont très rodées à la façon de leur parler, d'apporter des éléments de solutions à des problèmes financiers qu'ils peuvent rencontrer dans leur mairie. Et ils leur proposent ce qui peut leur paraître une solution immédiate intéressante. En réalité, c'est juste une forme de tricherie pour capter un marché, pour capter un contrat. Parce que comme je viens de vous le dire, un contrat d'éolien, sachant qu'une éolienne, c'est entre 1 MW et 2 MW de puissance, ça peut vous rapporter de 4 millions à 8 millions, jusqu'à 4 millions ou 8 millions d'euros par éolienne.
Bon. Parce que, par exemple, quand il n'y a pas de vent, est-ce que l'éolienne peut garder l'énergie qu'elle a acquise ?
Non, c'est le problème de l'électricité. L'électricité ne se stocke pas. La seule façon qu'on ait de stocker un potentiel électrique, ce sont les barrages hydrauliques. Puisqu'à ce moment-là, le barrage maintient l'eau et dans les 10 minutes qui viennent, on peut lâcher l'eau et produire de l'électricité. Avec le vent, c'est l'inverse. Le producteur est dépendant du vent. Et le vent, comme chacun sait, est très variable. Donc il existe des périodes où il n'y a pas du tout de production électrique. Donc ça frôle le zéro. Et en général, c'est d'ailleurs quand on en a le plus besoin, c'est-à-dire soit en hiver, quand on par période de grand froid, parce qu'on est en période anticyclonique. Donc on a quelquefois des productions qui sont de 0,5% de la capacité éolienne installée au moment où on a le plus besoin. Ou en ce moment où nous allons avoir des canicules, c'est un peu la même chose. Il risque de ne pas y avoir de vent. Et maintenant que les gens sont très équipés en matière de réfrigération, de climatisation, il risque également de ne pas y avoir de production électrique qui vient servir ou apporter le service électrique au bon moment.
Alors, justement, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir ce que pensent les gens des villages concernés.
Alors, les gens des villages concernés découvrent souvent trop tard le projet. Et lorsqu'ils le découvrent, ils se renseignent. Et renseignement pris, ils s'aperçoivent qu'une éolienne apporte énormément de nuisances à la population. Alors, les nuisances, c'est d'abord la nuisance visuelle, puisque une tour des deux tiers de la tour Eiffel au-dessus de votre tête, c'est pas en soi anodin. D'autant plus qu'il y a des hélices et que ces hélices tournent, et elles tournent de façon irrégulière. Donc ça vous fait des projections de lumière et d'ombre qui font qu'en permanence vous êtes soumis à une alternance d'ombre et de lumière, où que vous soyez dans votre jardin, dans votre maison, etc. Ensuite, vous avez des projecteurs avec des flashs toutes les 2 secondes qui vont illuminer à l'intérieur de vos maisons à tout moment de la journée et de la nuit. Et ça fait du bruit. Et donc ce bruit, pour certaines personnes, est insupportable. Et il y a des gens qui ont des dépressions, qui sont très, très, très malades psychologiquement. Et donc c'est ce qu'on appelle le syndrome éolien. Il y a un vrai problème de santé lié aux éoliennes. Le problème de santé, je le rappelle, c'est une qualification retenue par l'ONU, inclut également les problèmes psychologiques ou psychiques. Donc si vous n'êtes pas bien psychiquement dans votre vie à cause d'une machine qui vous dérange, c'est le cas du bruit d'ailleurs,
oui.
Vous êtes malade. Il y a beaucoup de gens qui sont malades et beaucoup de gens qui veulent même quitter leur maison, leur propriété pour aller habiter ailleurs.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Brigitte Desabbayes et nous évoquons maintenant la réaction du village, si je puis dire, face aux éoliennes.
Alors, ce qu'on constate, c'est qu'en général, les villages, d'abord, sont prévenus très tard et n'ont pas toutes les informations pour réaliser les conséquences que vont causer ces implantations d'éoliennes. En réalité, dans un premier temps, les élus, principalement les élus, perçoivent la création d'un parc éolien comme une opportunité, mais il s'avère que c'est en fait une vue à court terme et que à long terme, ça constitue un risque financier pour la commune et pour les collectivités locales environnantes.
Quand vous avez parlé d'opportunité, vous voulez dire que peut-être les sommes d'argent qu'ils vont toucher vont servir à la création d'une salle polyvalente, quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà. Alors, il y a d'abord les propriétaires des terrains, qui sont parfois des élus aussi, ou proches des élus, qui vont recevoir quand même du promoteur éolien un loyer, mais qui est finalement assez modique par rapport aux engagements, enfin aux perspectives de profit qui sont annoncées pour eux. Et ils vont signer des baux emphytéotiques, ce qui veut dire que pendant au moins 3 générations, ils vont créer une pollution sur leur sol, puisqu'il faut des masses de béton pour installer ces éoliennes.
Et quelle est la durée de vie d'une éolienne ?
C'est de l'ordre de 25 ans.
30 ans peut-être. Donc ça veut dire que si elles ont une durée de vie de 25 ans, il faudra bien les enlever.
Voilà. Alors au bout de ces 25 ans, il y aura forcément des charges de démantèlement.
Et est-ce qu'on sait à combien s'élèvent ces charges ?
Alors, il y a eu des études de fait. Les exploitants promoteurs ne provisionnent que 50 000 euros, ce qui représente à peu près 10 fois moins que les charges réelles, puisqu'il va falloir enlever des mètres cubes et des mètres cubes de béton dans le sol et en profondeur.
Ça veut dire que si les gens n'ont pas assez d'argent, tout ça va rester en friche avec du béton
voilà.
Dans la terre.
Donc le sol sera pollué pour des générations. Et ultimement, il est possible que ça revienne à la commune ou à la communauté de communes ou à la collectivité territoriale en place de supprimer ces pollutions, ces friches industrielles qui vont rester dans le sol puisqu'il n'y aura plus personne qui sera concerné, éventuellement le propriétaire sera mort.
Et est-ce qu'il y aura des métaux lourds qui restent ?
Oui, il y a des métaux lourds. Il y a des métaux lourds qui restent. Oui, ça, Arnaud, tu peux peut-être compléter.
Oui, non seulement il y a des métaux lourds, mais il y a des problèmes de recyclage ou de non-recyclage, notamment des pales, qui sont des matériaux composites assez sophistiqués.
Alors, parlez-nous des pales, justement.
Les pales sont des hélices assez sophistiquées en termes industriels. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire en fin de vie des éoliennes. Et l'Allemagne se retrouve aujourd'hui avec un gros problème, c'est que ses premières éoliennes arrivent à échéance, et aujourd'hui, ils ont 20 000 éoliennes à démonter, et ils ne savent pas quoi faire des résidus. Alors, c'est pas toujours très correct, mais apparemment, les éoliennes sont souvent emmenées en Afrique pour être enterrées en Afrique ou brûlées. Mais si on les brûle, ça émet des gaz très toxiques, notamment de la dioxine ou des choses comme ça, qui sont évidemment éminemment polluantes. Voilà. Et ça, on n'a pas de solution aujourd'hui. Les promoteurs éoliens n'ont pas la solution technique. Et évidemment, ils essaient d'enfouir le sujet, qu'on n'en parle pas.
Et on ne sait pas combien ça coûtera d'enfouir, comme vous dites.
Ben, enfouir, c'est pas la bonne solution, parce que si c'est technique et s'il faut l'enfouir en Afrique, parce que c'est la poubelle de l'Europe ou des États-Unis ou de la Chine, ça peut pas aller. Enfin, c'est une solution très, très inconvenante. Donc, il faut trouver des modes de recyclage qui sont, eux, sophistiqués, qui n'existent pas, qui sont pas au point aujourd'hui. Alors, je ne parle là que des pales d'éoliennes. Après, il y a tout le recyclage du béton dont vient de parler Brigitte des Abbayes, du mât, etc., qui entrent dans des processus industriels plus classiques.
Parce que rappelez-nous la hauteur des mâts.
Bah, un mât, c'est 120, 100, ça peut aller jusqu'à 150 mètres de haut aujourd'hui. Et ouais. La pale d'éolienne va encore au-delà, si vous voulez.
Et alors, on n'a pas évoqué, est-ce que ces pales vont faire beaucoup de bruit ?
Alors, le bruit, oui. Les habitants qui habitent à proximité des éoliennes, vous dites que le bruit est assez insupportable et que vous avez l'impression d'être dans une machine à laver. Voilà. Et ce, à 10 km à la ronde. C'est-à-dire que c'est pas d'ailleurs immédiatement sous l'éolienne qu'on a du bruit. Pour ça, d'ailleurs, que quand on fait visiter des éoliennes à des élus, on les emmène sous les éoliennes parce que c'est pas là qu'est le bruit. Le bruit, il va plus loin. Et donc, il y a un peu une forme de manipulation mentale là, des élus quand on leur présente un projet parce qu'on les emmène à l'endroit où il n'y a pas pas de bruit, mais le bruit est ailleurs. Mais les riverains vous disent tous que c'est insupportable. Enfin, voilà, on en prend acte. Il y a 1400, 1500 associations, parce qu'il y a d'autres fédérations que la nôtre, qui défendent des habitants et l'environnement des habitants. Et tous ont les mêmes conclusions. Tous font les mêmes constats. Donc, c'est pas quelque chose qu'on invente.
Oui. Et en mer?
Alors, mer, c'est un autre sujet. L'éolien marin, là, nous parlons de l'éolien terrestre, bien sûr, parce que nous sommes en Eure-et-Loir. Nous parlions d'éolien en Eure-et-Noir. L'éolien marin pose d'autres difficultés majeures, mais je crois que c'est pas le lieu ni le jour pour en parler. C'est un sujet en soi.
Voilà. Alors, revenons justement à l'éolien en campagne, parce que on avait même dit que près de Chartres, on risquait d'avoir des éoliennes qui empêcheraient, en quelque sorte, d'avoir la cathédrale.
Alors là, le mouvement est très engagé, et puisque en pratique, on doit pouvoir protéger la cathédrale par les cônes de visibilité pour lui laisser des perspectives visuelles de très loin sur la cathédrale. Mais il faut savoir une chose qui est très loin d'être évidente et qui va un peu à l'encontre de ce qu'on peut imaginer. C'est que quand vous avez un site qui est protégé par l'UNESCO, en fait, la loi française ne protège pas le site.
Ah bon ?
Et non. J'ai découvert ça justement en étudiant le dossier de la cathédrale de Chartres. En fait, l'UNESCO accorde une sorte de label. Donc c'est contractuel. Et rien n'engage l'État, si ce n'est la protection d'un monument historique de 500 mètres. Il n'y a rien dans le droit français qui protège nos sites. Le Mont-Saint-Michel a été menacé. Beaucoup de sites historiques emblématiques sont menacés. Rien ne les protège en droit français. C'est une énormité, je dirais presque scandaleuse, si vous voulez, en termes de protection du patrimoine, tant on sait que c'est important d'avoir ce patrimoine pour des raisons culturelles, mais aussi économiques. Enfin,
ce
patrimoine nous appartient à tous. Et là, aujourd'hui, la cathédrale de Chartres est prise dans un étau et progressivement, l'étau se resserre. Alors heureusement, c'est la préfecture elle-même qui a pris l'initiative de défendre des cônes de visibilité. Mais il y a des associations qui ont dû se créer aussi pour venir en appui de cette démarche, car la menace dans la Beauce est absolument extraordinaire. Vous en avez de plus en plus et partout.
Oui, il faut dire que la Beauce s'y prête en quelque sorte.
Oui, alors on peut dire ça, mais enfin, se prêter à quelque chose qui est inutile, parce que je n'ai pas vraiment développé cet aspect, l'énergie éolienne est une énergie qui est inutile. Donc on peut toujours dire, on peut en mettre dans certains endroits, mais économiquement, ce n'est pas nécessaire.
Vous pouvez développer ça.
Oui, bien sûr. L'énergie produite par les éoliennes ne sert dans l'absolu, c'est-à-dire que 1,5% de l'énergie consommée en France. Les promoteurs éoliens parlent en permanence de l'énergie produite.
Oui.
Effectivement, ils le rapportent à l'énergie électrique totale. C'est-à-dire quand vous consultez les sites, vous constatez qu'en 2018, l'énergie produite est à peu près 5,9% de l'électricité française. Ça n'a pas de sens en soi, ça a un sens par rapport à l'énergie totale qu'on consomme dans un pays.
Oui, ça c'est très important.
Et cette énergie totale, ce n'est plus qu'un quart, parce que l'électricité, ce n'est qu'un quart de la consommation énergétique en France. Le vrai problème d'énergétique aujourd'hui, pour 75%, donc pour les trois quarts, il porte sur les énergies fossiles qui, elles, émettent de la pollution, des gaz à effet de serre. Mmh. C'est l'automobile, c'est les transports, c'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est le chauffage des maisons au fioul. Et c'est là qu'est la priorité. Donc on a investi depuis bientôt 10 ans 40 à 50 milliards d'euros qui pour l'essentiel représentent le profit des promoteurs puisque c'est de la subvention qui se traduit à la sortie pratiquement en profit. Mmh. Alors que le même argent aurait été investi sur les territoires en favorisant la réduction des gâchis énergétiques par des mesures de type isolation thermique des bâtiments, mise en place de géothermie, de pompes à chaleur, etc., on aurait aujourd'hui pu équiper pratiquement toutes les maisons françaises avec la même somme, avec une pompe à chaleur. Voilà. Et on aurait réduit probablement la consommation électrique d'un tiers. Donc si vous voulez, c'est vous dire à quel point il y a un lobby actif pour capter cette manne financière et l'entretenir et la développer, d'ailleurs, si possible, au détriment vraiment de l'intérêt général, avec un discours qui est vraiment très, très, très arrangé, enfin, pour ne pas dire plus.
Et l'énergie solaire ?
L'énergie solaire a un rendement assez faible aussi, mais au moins l'énergie solaire a, je dirais, au moins un avantage, c'est de ne pas avoir trop d'inconvénients pour les riverains. Voilà, donc quelquefois même, vous avez des très beaux hangars équipés de panneaux solaires qui sont très propres, très corrects dans le paysage, donc ils ne dérangent personne, ils ne font pas de bruit. Maintenant, la production, le rendement est assez faible. Une éolienne, il faut savoir en France que son rendement moyen, son coefficient de charge, je dirais, d'un ingénieur, c'est 21%. Donc à presque 80%, l'éolienne ne tourne pas.
Oui, c'est ça. C'est ça le.
Ou tourne à ralenti, ou tourne en dessous de sa capacité. Et là, pour vous donner une illustration amusante, pour dissimuler cette réalité, les promoteurs éoliens vous disent « Oui, mais les éoliennes fonctionnent à 95% du temps ». Alors on croit comme ça que fonctionner, ça veut dire produire. Parce que tout le monde se dit « Bah oui, si ça fonctionne 95% du temps, c'est que ça produit l'électricité ». Non, fonctionner, ça veut dire être en état de marche. Les 5% du temps, ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a de la maintenance. Et les 80%, ça fonctionne, ça veut dire que c'est disponible. Mais s'il n'y a pas de vent, ça ne produit pas.
Oui.
Alors un ascenseur qui fonctionne, il est à l'arrêt. Vous allez appuyer sur le bouton, mais il fonctionne. 99% du temps dans la journée, il est à l'arrêt. C'est la même chose.
C'est un contresens sur...
C'est pas un contresens, c'est un discours commercial prévu pour tromper les gens.
Oui. Justement, quels sont les méfaits que vous avez pu observer avec les éoliennes? Ce qu'elles vont engendrer, ce qu'elles risquent d'engendrer comme méfaits?
Ben les méfaits,
pour la santé, pour...
Oui, alors je vous en ai cité quelques exemples tout à l'heure. C'est-à-dire effectivement des gens qui sont déjà atteints dans leur santé, que ce soit physique ou psychique. Ça, c'est déjà un élément important. Il y a d'autres interrogations sur la santé animale.
Oui, alors aujourd'hui, ça, on
vous avez
en parle
vu qu'il y a des cas
assez,
d'élevage menacé. Et là, il y a des études qui ont été faites, notamment par des experts de Maison Alfort, qui démontrent qu'il y a un vrai problème de mortalité animale. Vous avez bien sûr une atteinte à la biodiversité, puisque les oiseaux sont largement menacés par des machines dont les pales tournent à 300 km/h quand il y a du vent en bout de pale, si vous voulez. Alors il y a des espèces protégées qui disparaissent. C'est le milan royal en Allemagne, en Espagne, maintenant en France. L'aigle de Borélie, l'aigle royal, les vautours fauves, les grues, les outardes, les faucons, etc. Et puis les chauves-souris.
Et les chauves-souris aussi.
Et les chauves-souris sont protégées. Et l'ADEME elle-même... qui pourtant ne se gêne pas pour faire la promotion des intérêts des promoteurs éoliens, a quand même reconnu que cette espèce protégée avait perdu à peu près 1 600 000 unités, donc une mortalité de 1 600 000 chauves-souris du fait des éoliennes dans les 10 ans passés. Donc c'est vous dire qu'on marche sur la tête, on a un discours écologique qui est totalement incohérent.
Eh bien, un grand merci à vous deux. Je crois que nos auditeurs auront bien compris qu'il y aura des problèmes s'il y a justement des éoliennes. Un grand merci à vous deux. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.
Merci. Merci à vous. Thank you.